Et avant son entrée dans l'hémicycle le 21 janvier prochain, tout bientôt donc, le projet de loi de bioéthique est entre les mains de la commission spéciale du Sénat depuis mardi 7 janvier. Nous poursuivons, nous, avec Maëlys Jahan, notre examen du texte. Elle est déléguée d'Alliance Vita pour la Haute-Garonne. Alliance Vita, faut-il le rappeler, est opposée à ce projet de loi. Bonjour Maëlys.
Bonjour Isabelle.
C'est notre avant-dernier rendez-vous ce matin déjà. Nous nous penchons sur l'article 19 du projet de loi. Il concerne le diagnostic prénatal qu'on peut abréger en DPN. Comme c'est la règle que nous nous sommes fixés, Maëlys, je vais lire le texte du projet de loi et on en parle juste après. Donc article 19, extrait de l'article 19. Le ministre chargé de la Santé détermine par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l'autre membre du couple des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l'indication initiale de l'examen mentionné au paragraphe 6 du même article L2131-1. Bon, un peu de charabia de bon matin. La néophyte que je suis n'a pas vu un grand bouleversement. Il va falloir une fois de plus que vous nous éclairiez, que nous reprenions les choses pas à pas. D'abord, on va tout de suite poser le cadre. On parle de DPN, diagnostic prénatal, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit des pratiques médicales, notamment les échographies, qui ont pour but de détecter in utero, chez l'embryon ou le fœtus, une affection d'une particulière gravité.
On parle de suivi de grossesse, c'est ça ?
Alors c'est un peu plus que le suivi de grossesse, parce que généralement le suivi de grossesse, il concerne essentiellement la femme. Là c'est, effectivement les échographies font partie du suivi de grossesse, tout comme certaines prises de sang. Il faut savoir que ces tests qui permettent de faire du diagnostic prénatal sont obligatoirement proposés à la femme par le médecin ou la sage-femme. Mmh. Et la femme va dire oui ou non, je refuse ou j'accepte de recourir à ces tests.
D'ailleurs, quand il arrive qu'elle refuse, il me semble que le gynécologue qui la suit lui demande de signer un papier comme quoi...
Une décharge.
Hein,
voilà,
c'est de ça qu'on parle. Donc aujourd'hui, ce qui est légal, c'est quoi ? C'est les trois, ce qui est obligatoire, je crois, ce sont ces trois échographies.
Trois échographies, voilà. Et puis ensuite, par exemple, la recherche de la trisomie 21 avec les marqueurs sériques combinés à un examen de l'échographie, la clarté nucale, qui va donner un risque de trisomie 21. Mmh. Celui-ci est souvent associé à la première échographie, mais n'est pas du tout obligatoire.
D'accord. L'objectif visé, vous nous avez parlé de trisomie 21, c'est du diagnostic prénatal. On parle de diagnostic, c'est du diagnostic ou du dépistage ?
Alors d'abord, c'est du dépistage. On va faire un test qui va nous donner une probabilité, un risque. Et s'il y a un risque avéré que le fœtus ou l'embryon soit porteur effectivement d'une affection, d'une particulière gravité, on va orienter le couple vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic anténatal. Donc, par exemple, si je fais mes échographies chez la sage-femme, la gynéco en ville, il va me dire « allez à l'hôpital au centre de diagnostic anténatal » pour recevoir des affections sur les caractéristiques de l'affection, les moyens de la détecter. Par exemple, c'est l'amniocentèse, un examen invasif qui n'est pas sans risque pour le fœtus, mais qui permet de détecter efficacement s'il y a, par exemple, une trisomie 21 ou autre chose. Et toutes les possibilités de prévention, de soins, de prise en charge du fœtus ou du nouveau-né. Mais également, s'il y a possibilité, et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe, de faire une interruption médicale de grossesse.
Alors, pour qu'on soit bien clair, Maëlys Jahan, si je suis enceinte, je ne veux absolument rien savoir à quoi je suis tout de même tenue.
Faire les échographies.
Trois échographies.
Voilà, c'est
trois
ça.
Trois échographies. Au contraire, je suis un peu stressée pour mille raisons. J'accepte tout ce qu'on me propose. Qu'est-ce qu'on me propose ?
Mais on proposera les marqueurs sériques au premier trimestre pour regarder s'il y a un risque de trisomie 21.
Ouais.
Dans les échographies, on détecte déjà s'il y a des malformations, notamment. Et voilà.
D'accord. Et ça, avec notamment la clarté nucale, je m'en souviens, effectivement.
Je rajouterai également que depuis un an et demi à deux ans, on pratique ce qui s'appelle le DPNI, qui est une prise de sang, diagnostic prénatal non invasif. C'est une prise de sang maternelle. On va prélever dans cette prise de sang des cellules fœtales. Ça va nous permettre de faire un karyotype, de regarder le code génétique du fœtus. Et aujourd'hui, on regarde les trisomies. On peut voir si le fœtus est porteur de trisomie. Et si c'est le cas, on va orienter le couple selon ses souhaits.
Orienter, on sous-entend effectivement que ça peut être une IMG, interruption médicale de grossesse. On va y venir. La trisomie, vous avez dit, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que la 21. C'est ça
qu'on
comprend.
Il y a également la 13 et la 18.
D'accord. Donc, qu'est-ce que la loi aujourd'hui vient changer avec l'extrait que j'ai lu tout à l'heure ?
Il y a assez peu de changements dans cette loi. Ce qu'on peut voir plutôt, c'est qu'on s'enfonce un peu plus dans la spirale de toujours plus de diagnostics. Déjà, la révision des critères du DPN ne sera plus sous la coupe du législateur. Quand on dit législateur, c'est passage au Parlement, édiction d'une loi, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. Et là, ce sera délégué au ministère de la Santé qui pourra faire évoluer ces critères par simple décret. Ça concerne essentiellement le DPNI, cette prise de sang, on l'a vu, qui permet de récupérer les cellules fœtales.
Non invasif,
puisque aujourd'hui on détecte les trisomies 21. Et avec cette loi, en fait, on permet que par décret, on élargisse, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, on élargisse ce test pour d'autres affections génétiques.
Et selon vous, donc, ce transfert d'autorité va vers plus de souplesse, c'est
exactement,
ça hein ?
Exactement, ce sera beaucoup plus simple et donc on le fera beaucoup plus facilement. Le deuxième point, c'est que, aujourd'hui, on a assez peu de moyens de recherche de maladies, mais notamment avec ce test, on pourra détecter pas mal de maladies avec ce DPNI qui sera étendu. Et donc, si par exemple, on cherche une affection, une pathologie déterminée et qu'on tombe sur une autre affection, on pourra le transmettre au couple.
Alors, on parle du DPN, un diagnostic prénatal. Qu'est-ce qui fait débat lorsqu'on est enceinte, finalement ? Savoir comment se porte son enfant, s'il va être en forme ou non, ça semble légitime, ça semble naturel.
C'est tout à fait naturel et légitime. Au contraire, c'est très bien de s'inquiéter pour son enfant. Le problème, c'est qu'en renforçant le contrôle des caractéristiques génétiques du fœtus, eh bien, on augmente la pression sur les couples. Et donc, on a des grossesses qui sont vraiment de plus en plus anxiogènes. On réduit aussi un petit peu le fœtus à ses caractéristiques génétiques, notamment avec le DPNI. On intensifie le passage au crible prénatal du fœtus. Et du coup, on voit que nos mentalités se ferment de plus en plus à l'accueil de la vulnérabilité.
L'accueil d'une personne handicapée et d'un enfant handicapé.
Exactement. Mmh. Et puis, si ce diagnostic prénatal s'orientait essentiellement vers une meilleure prise en charge de l'enfant ou du fœtus du couple pour accueillir cet enfant, ce serait merveilleux. Le problème, c'est qu'on voit que très souvent, ça conduit plutôt à une interruption médicale de grossesse. Je rappelle qu'une interruption médicale de grossesse est un avortement pour raison médicale qui peut avoir lieu jusqu'à la fin de la grossesse. Et 96% des fœtus qui sont détectés porteurs de trisomie 21 aujourd'hui sont avortés, sont supprimés.
96% des fœtus diagnostiqués. Oui, effectivement, ça fait lourd. Dernière question, est-ce qu'ils sont fiables en plus de ça, ces diagnostics, ces tests que l'on fait subir, fiables et sans risque ?
Les premiers tests donnent un risque et puis ensuite justement c'est l'amniocentèse qui donne vraiment une indication exacte, un diagnostic qui pose le diagnostic, mais ce genre de test n'est pas du tout anodin puisque on va pénétrer dans la poche des os et on voit qu'on a un risque d'environ 1% de mort fœtale. Par amniocentèse, en fait.
Et puis, il arrive aussi des heureuses surprises, hein, des femmes à qui on a diagnostiqué des enfants avec problèmes qui, en fait, n'en avaient pas.
Exactement, c'est d'ailleurs très fréquent qu'il arrive. Et du coup, on a fait peser
un stress,
un poids très important pour, entre guillemets, rien du tout. Et du coup, on voit qu'on va quand même vraiment toujours plus dans une spirale de technicité. La technicité s'emballe et on ne cesse pas d'aller vers toujours plus d'eugénisme avec ces pratiques.
Eugénisme, le mot est lâché. Merci beaucoup Maïlys Jahan. On vous retrouve la semaine prochaine pour notre dernière. On verra l'interruption médicale de grossesse et puis aussi les bonnes nouvelles, mais les moins mauvaises nouvelles de ce projet de loi. Je rappelle que la soirée est la première de l'Université de la Vie est le 13 janvier prochain dans 6 villes de notre région. Merci à vous.
Merci Isabelle.